C'est avec beaucoup de joie que j'ai l'occasion là avec vous de partager ce temps d'écoute de la parole. Nous avons entendu que la parole de Dieu est plus acérée qu'aucune épée à double tranchant et qu'elle divise jusqu'aux jointures et aux moelles. Elle est celle qui juge nos sentiments et nos pensées profondes. Elle est celle qui nous rattache au Dieu vivant et à Jésus-Christ son Fils. Je voudrais simplement qu'on puisse ouvrir nos Bibles dans Colossiens, l'épître de Paul aux Colossiens, au chapitre 4, c'est à la page 1340 des Bibles d'Église, ces Bibles-là, page 1340. Donc c'est dans Colossiens au chapitre 4 et au verset 2 à 18. Quelques mots de réflexion pour commencer. Simplement, on est typiquement là dans le début de l'année, et pour avoir été pasteur dans une église plus établie avant aujourd'hui, je sais que c'est des semaines et des jours cruciaux, parce que c'est le moment où on lance les choses, on lance les activités, on se pose d'une manière ou d'une autre, j'espère pas maintenant et avant l'été, on pose des bilans, et on se demande qu'est-ce qu'on continue, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on renforce, qu'est-ce qu'on arrête. Et aussi, quand on a entendu le petit historique que Joe nous a fait juste avant, on regarde un peu en arrière, on se réjouit de ce qui a été fait, de ce qui est en train d'être fait. Je pensais aussi à la réunion du soir, du dimanche soir, qui est encourageante, qui est née il y a quelques années aussi. Et puis on a entendu dans la prière la reconnaissance qui vient de comment l'église de Châtelet augmente, etc. Et on se dit donc, il y a peut-être aussi d'autres projets dans les cartons. On pense à la famille, au couple Bartlett, c'est ça, qui était membre dans l'église et qui se prépare à continuer des projets. Et donc on se demande, soit au niveau local, soit au niveau plus régional, comment s'engager, comment soutenir, comment prier, comment donner, comment former, comment envoyer des gens ou pas. Et puis, est-ce qu'on est dans le bon dans ce qu'on fait? Est-ce qu'on devrait continuer comme on a toujours fait? Est-ce qu'on devrait renforcer ce qu'on fait? Et la réponse pour une église conquérante, c'est oui. Tout simplement parce que Dieu veut que son royaume progresse dans le monde par la multiplication des églises locales, à la fois solides et conquérantes. Et cette conviction ne vient pas d'une répétition machinale de quelques théoricien de la croissance de l'Église. Elle me vient tout droit de la série que j'ai eu l'occasion de prêcher sur l'Épître aux Colossiens l'année dernière à Moissy-Cramayel. Et ce texte de Colossiens nous aide tellement à penser comme cela. Le Seigneur veut que son Église grandisse, mais il ne veut pas que son Église grandisse n'importe comment. Il veut que son Église grandisse enracinée en Christ, solidement. Et s'il fallait qu'on se repère dans cette lettre aux Colossiens, je vous propose simplement de revenir une page en arrière et de regarder ce que Paul dit dans le chapitre 2, Colossiens 2, au verset 6 et 7, qui sont, je pense, le cœur de son intention lorsqu'il écrit aux Colossiens. Une église encourageante, conquérante, déjà solide, mais qu'il veut encourager à continuer à être conquérante. Et voici ce qu'il dit comme une clé importante pour comprendre sa lettre aux Colossiens. Colossiens 2, verset 6. « Ainsi donc, comme vous avez accueilli le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Soyez enracinés, fondés en lui, affermis dans la foi telle qu'elle vous a été enseignée, et soyez en riches en exprimant votre reconnaissance à Dieu. » Voilà l'intention générale de Paul pour l'Église aux Colossiens. Et puis c'est pour lui maintenant le moment de conclure cette lettre. Et la conclusion d'une lettre est importante parce que c'est la dernière impression qu'il va laisser aux Colossiens, c'est la dernière impulsion qu'il va leur donner pour continuer, pour les aider à aimer la croissance qui vient de l'Évangile, à la vouloir, à la contribuer. Comment est-ce que Paul va procéder pour les encourager une dernière fois à cela? Et là, la surprise dans le texte qui nous intéresse ce matin, c'est que Paul, dans une grande partie de cette lettre, donne une liste de gens, une liste de personnes. Alors avant la lecture, je vous invite à prier, et puis on va lire ce texte. Seigneur, comme nous venons de le chanter sur la base du psaume 119, verset 105, ta parole est une lampe à nos pieds. Et nous prions, Seigneur, qu'elle le soit ce matin, et nous sommes conscients qu'elle est permanente, mais nous sommes conscients de notre vapeur et de notre inconstance. Nous avons besoin de l'illumination de ton Saint-Esprit pour qu'elle s'ancre en nous, selon ton intention, ta volonté, et pour que nous soyons ensuite dans l'obéissance joyeuse du Seigneur vivant. Nous te prions en son nom. Amen. Donc Colossiens 4, à partir du verset 2, voilà ce que Paul dit pour conclure. Persévérez dans la prière. Veillez-y dans une attitude de reconnaissance. Priez en même temps pour nous. Que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, afin que je puisse annoncer le mystère de Christ, à cause duquel je suis emprisonné, et que je le fasse connaître de la façon dont je dois en parler. Conduisez-vous avec sagesse envers les gens de l'extérieur, et rachetez le temps, que votre parole soit toujours pleine de grâce et assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Tychique, qui est notre bien-aimé frère, un serviteur fidèle et mon compagnon de service dans le Seigneur, vous informera de tout ce qui me concerne. Je vous l'envoie tout exprès pour qu'il prenne de vos nouvelles et réconforte vos cœurs. Je l'envoie avec Onésime, le fidèle et bien-aimé frère qui est l'un des vôtres. Ils vous informeront de tout ce qui se passe ici. Aristarque, mon compagnon de détention, vous salue, ainsi que Marc, le cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu des instructions. S'il vient chez vous, faites-lui bon accueil. Jésus, appelé Justus, vous salue aussi. Ils sont parmi les circoncis, les seuls qui travaillent avec moi pour le royaume de Dieu, et ils ont été un encouragement pour moi. Épaphras, qui est l'un des vôtres, vous salue. Serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que vous teniez bon, comme des hommes mûrs, pleinement disposés à faire toute la volonté de Dieu. Je lui rends en effet ce témoignage, il se dépense sans compter pour vous, pour ceux de Laodicée et pour ceux de Hiérapolis. Luc, le médecin bien-aimé, vous salue, ainsi que Démas. Saluez les frères et sœurs qui sont à Laodicée, ainsi que Nymphas et l'église qui est dans sa maison. Lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'église de Laodicée. Lisez à votre tour celle qui vous arrivera de Laodicée. Dites à Archippe, veille sur le service que tu as reçu dans le Seigneur, afin de bien l'accomplir. Je vous salue, moi, Paul, de ma propre main. Souvenez-vous de ma condition de prisonnier. Que la grâce soit avec vous. Jusqu'ici, notre lecture de la parole, et nous prions que, par son esprit, elle s'ancre en nous. Si nos églises grandissent, c'est parce que, comme l'église de Colosse au temps de Paul, nous sommes au bénéfice de tout un réseau de personnes et de ministères qui ont travaillé et qui travaillent encore dans ce but. Une église qui grandit de la croissance qui vient de Dieu, c'est non seulement une église qui est au bénéfice du ministère de l'Évangile, comme chacune de nos églises, mais c'est aussi une église qui prend fidèlement sa place dans ce même réseau de l'Évangile, qui passe le témoin plus loin, si vous voulez reprendre l'image d'une course de témoins. Non seulement chacun dans son voisinage ou dans sa ville, mais aussi dans sa région, dans son pays, et nous l'avons vu dans le monde aussi, dans lequel le Seigneur nous place. S'il fallait résumer l'ensemble de ces versets, je vous proposerais simplement de le résumer ainsi. Nous sommes en présence d'une exhortation de Paul pour une église qui grandit et qui fait grandir, qui contribue à la croissance. Et il le dit de trois manières différentes. Une église qui grandit et qui fait grandir est une église qui prie avec persévérance. C'est aussi une église qui utilise bien son temps. Et c'est aussi une église qui prend sa place dans le réseau. Alors arrêtons-nous sur les premiers versets, les versets 2 à 4. Une église qui grandit et qui fait grandir, qui contribue à la croissance de l'évangile, c'est d'abord une église qui prie avec persévérance. Tout commence, nous le voyons au verset 2, par la prière, parce que pour être plus précis, toute action est rendue possible par la persévérance dans la prière. Regardez ce que Paul dit, persévérez, verset 2, dans la prière, veillez-y dans une attitude de reconnaissance. Chaque moment passé à genoux, je pense, dit quelque chose de ce que nous avons compris de la suprématie de Jésus-Christ en tout et sur tout. Chaque moment passé à genoux dit quelque chose de ce que nous avons compris de notre confiance que le plan de Dieu pour le monde est parfait. Il nous dit quelque chose aussi sur notre dépendance totale de lui dans tous les domaines. Et c'est pour cela que Paul lui-même, et vous l'avez noté dans la lecture, Paul lui-même demande que l'on prie pour lui, versets 3 et 4. Même pour lui, Paul, l'apôtre, inspiré, divinement inspiré, alors qu'il écrit ces mots, demande à ce que les Colossiens prient pour lui et pour son ministère. Priez, dit Paul, verset 3, en même temps pour nous, que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, afin que je puisse annoncer le mystère de Christ, à cause duquel je suis emprisonné, et que je fasse connaître, que je le fasse connaître, de la façon dont je dois en parler. Même Paul. On ne peut pas prétendre avancer dans la foi, rester comme Paul le demande et l'exhorte aux Colossiens, rester enraciné en Christ. On ne peut pas prétendre connaître Christ et le servir lui seul, résister aux assauts des systèmes et des dieux de ce monde, produire la vie sainte qui vient de Dieu et qui lui plaît sans la prière persévérante. On ne peut pas espérer voir des gens se tourner vers Dieu et faire la paix avec lui, le connaître et l'aimer toujours plus sans la prière persévérante. Le Père s'attend à ce que nous entrions dans une relation constante et une prière persévérante. On ne peut pas être une église qui grandit et qui fait grandir sans la prière persévérante. C'était Spurgeon qui disait que Satan tremble lorsque le chrétien le plus simple se met à genoux. Ce n'est pas une question de savoir prier, ce n'est pas une question d'avoir les mots, c'est une question de compréhension de l'enjeu. Prier avec une entière persévérance. Et alors on pourrait réfléchir à quelques pistes en ce début d'année. Comment est-ce que vous fonctionnez? Comment est-ce que je fonctionne? Qu'est-ce qui m'encourage à entrer dans une prière persévérante? Assurément, les réunions régulières de prière dans la communauté visent à cela, nous aident à cela. Et il faut les soigner, en prendre soin et comprendre l'enjeu de participer à la prière persévérante en communauté dans les réunions de prière. Peut-être que vous avez lu notre liste que vous tenez qui vous encourage à prier avec persévérance. Peut-être que vous aimez prier en binôme. Et si vous n'en avez pas, choisissez un binôme dans la communauté. Des personnes avec qui vous êtes bien, que vous voyez facilement et avec qui vous êtes content de vous encourager mutuellement à entrer dans la prière persévérante pour que l'Église puisse être une Église qui grandit et qui contribue à la croissance de l'Évangile. Un commentateur nous aidait à bien voir aussi comment nos cartes de prière pouvaient aussi toujours être agrémentées d'un point reconnaissance pour ne pas tomber toujours dans la demande, mais savoir voir ce que Dieu fait et comment il le fait, savoir reconnaître et compter les bienfaits de Dieu. Pourquoi pas avoir un carton recto où j'écris mes sujets de prière et les sujets de prière sur un sujet précis, sur le ministère de Matthieu par exemple, sur le ministère de telle ou telle personne auprès des couples, et puis derrière écrire les sujets de reconnaissance de ce que Dieu fait. Parce que Paul le dit, veillez-y dans une attitude de reconnaissance, verset 2. En lisant cette mention que Paul répète beaucoup dans la lettre aux Colossiens, j'ai pas pu m'empêcher de me dire que bien souvent nous sommes prompts à demander beaucoup de choses, et souvent, il faut le reconnaître, je dois le reconnaître, des choses matérielles et passagères, et beaucoup plus de difficultés à louer Dieu, à le remercier pour des vérités et des biens, richesses éternelles et spirituelles. Je suis je suis tellement enclin à remercier le Seigneur pour à lui demander des choses pourtant passagères et j'oublie si souvent de le remercier pour ce qu'il fait et qui dure toujours. Veillez avec reconnaissance à prier, sachant compter les bienfaits de Dieu. Simplement parce que ça va dire qu'est-ce qu'on juge et qu'est-ce qu'on voit dans notre propre vie comme quelque chose d'urgent et important. Et je pense que c'est ce qui, dans l'esprit de Paul, lorsqu'il leur demande de prier avec persévérance pour lui, en rapport aussi avec ce qui suit, que Paul, l'apôtre, sache discerner ce qui est important, ce qui est urgent, ce qu'il faut dire et comment le dire avec persévérance. C'est un sacré exercice d'apprendre à prier ça. Seigneur, je te prie pour le prédicateur de la semaine prochaine. Je te demande qu'il sache prêcher fidèlement, comme il le doit, qu'il accomplisse son ministère à la suite de Paul, de dévoilement du mystère de Christ, que chacun aime plus Christ après le culte de dimanche prochain. Voilà à quoi ressemble ce type de prière persévérante. Et Seigneur, nous te louons parce que tu as déjà commencé cette œuvre. Tu es déjà en train d'édifier ton peuple sur ce magnifique fondement de Jésus-Christ. Une église qui grandit, qui fait grandir, est d'abord une église qui persévère dans la prière, mais sans transition, juste dans la suite, Paul dit qu'à partir du verset 5, une église qui grandit, qui fait grandir, est aussi une église qui utilise bien son temps. C'est comme ça que je vous propose de comprendre « racheter le temps », qui est une expression assez connue dans nos milieux. Une église qui utilise bien son temps. La mention de Paul au verset 5, de la conduite envers les gens de l'extérieur, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas encore dans le corps de Christ, dans l'Église. On n'en est pas surpris, puisque tout au long de Colossiens, Paul parle de la mission de l'Église au milieu du monde. Mais ce que Paul ajoute ici, c'est notre bonne utilisation du temps. De notre utilisation du temps. Est-ce qu'on utilise bien notre temps ? Racheter le temps, dit Paul. On le lit ensemble au verset 5. Conduisez-vous avec sagesse envers les gens de l'extérieur et rachetez le temps. La personne qui m'a montré le mieux cette utilisation juste du temps en rapport avec les enjeux éternels qui se déroulent sous nos yeux dans ce monde, c'est une jeune femme de 16-17 ans qu'on a accueillie à la maison, qui s'appelle Rachel, qui est irlandaise. Et qui a dû être appelée en catastrophe à la maison il y a de cela 18 mois parce que son papa a été atteint d'un cancer du cerveau et avait quelques mois encore à vivre. Et autant dans sa réaction, autant dans les téléphones qu'on a eus ensemble, autant dans le téléphone que j'ai eu avec elle cette semaine alors que son père est décédé, cette semaine, j'ai été frappé de voir cette jeune femme tellement mûre dans son rapport aux grands enjeux. Je ne savais pas trop quoi lui dire. Je ne savais pas trop comment l'encourager. Vous savez, c'est délicat. Je pense on a tous été dans ces situations-là. Mais cette jeune femme de 16-17 ans me dit, ça me permet de voir ce qui est important. Ça me permet de voir quelles sont mes activités de jeune qui peuvent être parfois futiles. À quoi je veux utiliser mes heures dans ma journée? Parce que je me rends compte que ça peut passer vite. Plus vite que ce que je crois. Rachel, qui grandit en Christ, membre d'une église loin, loin, loin en Irlande, qui m'apprend à voir dans sa vie ce que c'est racheter le temps, bien utiliser le temps que Dieu nous donne. Et c'est intéressant parce que Paul, dans sa pensée, lie cette notion de racheter le temps, de bien utiliser le temps, à l'utilisation de notre parole. Regardez au verset 6 et suivant. Et là, ce n'est pas une surprise, puisque le ministère de la parole, c'est le ministère par lequel les gens, les hommes, les femmes autour de nous, apprennent à comprendre les enjeux. Paul dit au verset 6 que votre parole soit toujours pleine de grâce et assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Une parole utilisée dans le temps qui nous est donné, dans nos journées, à commencer par notre course dans le métro et l'arrivée au travail, par exemple, à commencer par nos rapports dans le couple en se levant ou dans la famille, avec les amis, que notre parole soit toujours accompagnée de grâce. Ce qu'il y a, c'est que, et peut-être que notre famille d'église chrétienne et notre tradition est parfois un peu trouver en tort par rapport à cela, c'est qu'on peut parfois confondre assurance éternelle avec arrogance personnelle. Et je voudrais confesser que je me suis retrouvé dans ce type de situation personnellement. Paul est en train de dire l'assurance éternelle dont je viens de vous parler pendant 4 chapitres ne peut pas se transformer en arrogance personnelle. Que votre parole soit accompagnée de grâce, parce qu'une parole arrogante sans grâce ne porte jamais de bons fruits. Seule la parole accompagnée de grâce est à la hauteur de la grâce et par le bien de la grâce. Et Paul rajoute que votre parole soit aussi assaisonnée de sel. Je pense que c'est une allusion plus que sur le jugement que le Seigneur est en train de développer dans le monde. Simplement une idée de goût et de saveur. Que votre parole, que votre avis donné autour de la machine à café sur telle situation politico-religieuse ou sur telle situation stratégique dans le monde ou sur certaines situations dans la vie de famille de votre collègue, soit assaisonné et de sel, en ayant la pertinence, en sachant adapter la forme, en préservant le fond, pour que la parole de l'Évangile puisse donner soif à celui qui est le cœur de l'Évangile, et que les personnes qui nous écoutent aient soif de Jésus-Christ, que votre parole soit assaisonnée de sel. Intéressant hein, que le sel donne soif. Une église qui grandit, qui fait grandir, qui contribue à la croissance, est une église qui persévère dans la prière, est une église qui utilise bien son temps, et on peut s'encourager les uns les autres à se poser la question de notre vie quotidienne, de nos semaines, de nos mois. Tiens, au début de cette année, comment est-ce que je pourrais grandir dans mon utilisation du temps et dans mon utilisation de la parole dans le temps. Mais l'Église qui grandit et qui fait grandir, c'est aussi une Église qui prend sa place dans le réseau de l'Évangile. Et on le voit bien à partir de ce que Paul dit à partir du verset 7. Voilà, une Église qui prend sa place dans le réseau de l'Évangile. Paul est en prison. On le voit au verset 3, on le voit au verset 10, on le voit au verset 18, souvenez-vous de ma condition de prisonnier. Paul est arrêté dans tous les sens du terme. Alors comment est-ce que l'Évangile va progresser? Puisqu'il dit aux Colossiens depuis le début de la lettre qu'il a reçu comme mandat cette progression de l'Évangile. Est-ce que parce que Paul est en prison, l'Église va cesser de grandir? Comment est-ce que Paul peut les encourager alors qu'il va conclure sa lettre? Si on était recruteur pour cette mission-là, qui est-ce qu'on choisirait pour continuer le travail de l'Évangile alors qu'un des grands leaders religieux, spirituels de notre temps serait arrêté pour une raison ou pour une autre? On choisirait des gens vraiment très capables, qui ressortiraient du lot. Et c'est très intéressant comment Paul, dans son exhortation à l'action, s'associe à une foule de personnes engagées avec lui dans la même mission, des personnes dont on a entendu parler, mais qui, d'une certaine manière, sont anonymes, sont si proches de nous. Et vous voyez les noms sur lesquels je me suis arrêté dans la lecture. On a Tychique, on a Onésime, on a Aristarque, on a Marc, on a Barnabas, on a Justus, on a Épaphras, on a les frères et sœurs de Laodicée, ceux d'Hierapolis, on a Luc, on a Démas. Autour de Paul, même si Paul est en prison, il y a des gens ordinaires, mais qui sont des collaborateurs fidèles, des compagnons, qui, parce qu'ils ont compris l'urgence, ils ont compris l'importance de l'Évangile, sont en train de bien utiliser leur temps, sont en train, et on le voit très bien dans la personne d'Épaphras, sont en train de persévérer dans la prière pour les Colossiens. Ils prennent activement leur place dans le réseau de l'Évangile et ils travaillent à le faire grandir. En fait, Paul montre aux Colossiens qui sont à la fois bénéficiaires de tous ces gens, lui y compris, mais qu'eux aussi ont leur place dans le même réseau qu'eux. Et on le voit dans cette mission spéciale de Tichic et d'Onésime, au verset 7 à 9. Tichic, regardez, qui a la mission de venir les informer de tout ce qui concerne Paul. Verset 8, Paul précise, « Il l'envoie tout exprès pour qu'ils prennent de leurs nouvelles et qu'ils réconfortent leur cœur. » Vous voyez la notion du réseau par les personnes impliquées dans ce réseau. On voit aussi cela dans la personne d'Épaphras, j'en ai fait mention juste avant, versets 12 et 13. Épaphras est un modèle pour nous. C'est par lui, c'est par ses instructions qu'ils ont entendu parler de l'Évangile, et Paul en a déjà parlé au chapitre 1. C'est par Épaphras qu'ils sont venus à Christ, c'est par ce coin-là du réseau. Mais c'est Épaphras encore qui, à distance, alors qu'il n'est plus avec eux, lutte dans un modèle de persévérance. C'est comme si son exhortation à la prière persévérance, Paul la montrait dans la personne même d'Épaphras. Et il ne cesse, dit Paul, verset 12, de combattre pour vous, littéralement, alors on peut, je ne vais pas trop jouer sur les mots, mais littéralement, il agonise pour vous, qui a donné le mot combattre, mais aussi agoniser. Il lutte pour vous dans les prières, afin que vous teniez bon, comme des hommes mûrs, pleinement disposés à faire toute la volonté de Dieu. Si nous nous mettons à la place des Colossiens, nous voyons bien comment de voir Épaphras faire cela pour eux leur donne envie de faire pareil pour d'autres. Un réseau qui prie que des gens restent dans l'Évangile, que des gens viennent à l'Évangile, que des gens grandissent dans l'Évangile et que des gens servent l'Évangile. Dans ce même réseau, il y a Marc, verset 10, il y a Luc aussi, verset 14, qui sont les auteurs de nos évangiles, Luc et Marc, qui eux aussi, selon leurs dons et leur mission, ont contribué à l'avance du royaume de Dieu par la parole écrite, inspirée par l'Esprit. Et dans cette liste, il y a aussi Aristarque et Justus. Vous avez déjà entendu parler d'Aristarque et Justus, peut-être certains plus que d'autres. Moi, pas beaucoup, mais qui sont des compagnons de service, des anonymes, mais qui sont des sources de vrai réconfort pour Paul. Des frères qui sont juste là, avec Paul, pour Paul. Quelle grâce d'avoir Aristarque et Justus auprès de Paul. Qu'est-ce qu'on se dit lorsqu'on entend parler du réseau de l'Évangile, lorsqu'on entend parler de l'œuvre de l'Évangile dans l'Église locale? Est-ce qu'on se dit « je ne suis pas à la hauteur, j'y arriverai pas, j'ai vécu des échecs dans mon passé, où je me sens tout faible » C'est très intéressant de voir que Paul parle de gens dont Dieu se sert pour faire grandir son Église, qui sont justement, précisément, des gens fidèles, mais des gens tout simples, comme vous et moi. Des gens qui ont les mêmes faiblesses. On a au verset 9, on a Onésime, l'esclave qui s'était échappé. On a Marc, qui est sans doute le lâche qui avait fâché Paul dans le livre des Actes. On a Démas, qui est un compagnon proche de Paul, mais qui finira par lâcher l'Évangile, nous dit Paul dans 2 de Timothée, par amour pour le monde. Ça, c'est très utile pour nous parce que, précisément, lorsque nous sommes conscients de nos faiblesses, nous pouvons nous souvenir que, oui, comme Démas, il est possible de bien commencer et de mal finir. Mais comme Marc, il est possible de mal commencer, mais de bien finir. Paul insiste pour Marc. Paul rajoute qu'ils ont le devoir de lui faire, verset 10, bon accueil. C'est ce réseau solide, et c'est un réseau solide parce qu'il est composé d'hommes et de femmes qui sont unis dans l'amour, qui sont solidaires dans le combat et qui sont fidèles pour transmettre le bon témoin. C'est une exhortation qui fait tellement envie. Ça fait du bien d'entendre ces noms, ces personnes, ces ministères, chacun à son niveau. Et pour conclure, on voudrait simplement se rappeler que Paul nous tourne nos yeux vers finalement un rappel et deux appels. Une église qui grandit de la croissance qui vient de Dieu est une église qui grandit, mais c'est aussi une église qui contribue à la croissance, qui fait grandir. Et c'est ce rappel et ces deux appels, les voici. Ce rappel que nous sommes au bénéfice du ministère et du soutien d'autres personnes. Et certainement pas qu'au niveau financier. Pensons aux noms qui se lèvent dans notre mémoire, dont nous sommes les fruits dans le ministère. Et les deux appels, les voici. D'abord un appel à célébrer, à nommer le réseau, les personnes, les autres églises, les aider à se souvenir, à voir, à aimer, à prier les uns pour les autres. Donc non seulement notre église locale, mais les autres églises, les autres personnes. Et on ne parle pas juste de Paris, là. On parle du ministère de l'Évangile partout dans le monde. L'idée de célébrer, comme Paul le fait, ce réseau, a des effets tellement lumineux sur notre vie d'église et sur notre conquête pour l'Évangile. Et le dernier appel, après l'appel à célébrer, c'est l'appel à prendre des risques pour l'Évangile. Paul a une intention lorsqu'il donne ce chapitre. C'est de voir les Colossiens être rassurés, mais aussi à prendre conscience que, de la même manière qu'ils vont prendre une lettre qui vient des Laodicéens et qu'ils vont donner une lettre qui vient de Paul pour les Laodicéens, ils doivent prendre leur place dans le réseau, prendre des risques pour l'Évangile. Certainement pas qu'au niveau financier. D'abord au niveau de la prière persévérante, de la bonne utilisation du temps. Et alors, l'Église prendra sa place dans le réseau et contribuera au réseau. Alors je vous invite à un temps de silence, de retour sur ce texte, et je vais conclure ce moment par la prière.